n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Pierre Boudiès.
Dimanche politique sur RFI à 18h10 en temps universel, le décryptage de l'actualité politique de la semaine en France. Aujourd'hui, c'est vous qui nous aiderez à y voir plus clair, Arnaud Benedetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes également l'auteur de « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir » aux éditions Serres. Alors, il y avait comme un petit air de déjà-vu cette semaine au sein de la classe politique française. Un petit frisson, une petite bise venue tout droit de novembre 2024. Car depuis que le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé qu'il faudrait faire 40 milliards d'économies en vue du budget 2026, eh bien le débat sur la manière d'y parvenir a été complètement relancé. C'était déjà ce même débat qui avait coûté son poste à Michel Barnier. Cette fois, pour le budget 2025, le gouvernement Bayrou est donc sous le feu des projecteurs, d'autant que Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, le gendarme financier de l'État chargé de valider les comptes publiés par l'exécutif, n'a pas épargné les gouvernements précédents. Grosse colère, il était en audition à l'Assemblée nationale.
En l'absence de progrès significatifs en 2025, notamment sur la résolution des anomalies significatives, la Cour pourrait être amenée à tirer les conséquences, dans son opinion, en cohérence avec les normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère, autrement dit à refuser de certifier les comptes de l'État et de la Sécurité sociale. J'ai écrit hier une lettre en ce sens aux deux ministres chargés de l'économie et des comptes publics parce que, franchement, pardonnez-moi ce mauvais poil, ça suffit. C'est pas possible.
Arnaud Benedetti, Michel Barnier, on se rappelle, avait misé sur une nouvelle méthode. François Bayrou avait promis le respect de tous, tous deux avec l'idée d'un nouveau départ. Mais en entendant Pierre Moscovici, on voit qu'il est difficile de s'extirper de l'héritage des exécutifs passés pour se relancer dans une nouvelle séquence.
Oui, un héritage qui vient de loin, faut-il le rappeler, parce que c'est vrai que si on a eu une accélération, si vous voulez, de la dégradation ces dernières années, notamment, il faut le rappeler, au cours des 7 années d'Emmanuel Macron, qui a été évidemment confronté à un certain nombre de crises, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, tout ça se sait, mais cette dégradation, elle vient de très loin, elle vient d'il y a près d'une vingtaine d'années, voire plus, en l'occurrence, à laquelle d'ailleurs M. Moscovici a lui-même participé en tant que ministre quand même de l'économie, lorsqu'il présidait aux destinées de Bercy, il faut le rappeler aussi, mais c'est vrai que là, on a un problème politique qui est un problème à la fois politique, économique et financier majeur. Ce qu'il faut noter, c'est ce que montrent un certain nombre d'études d'opinion. Alors certes, elles sont récentes et il faut les prendre avec les plus grandes précautions, mais que manifestement, du côté de l'opinion publique, on considère qu'en effet, ce sujet est en train de devenir un des sujets prioritaires en matière de traitement politique. Vous savez, souvenez-vous, la campagne présidentielle de 2022, avait été une campagne où certains candidats avaient essayé de mettre en avant ce sujet.
Arnaud Benedetti,
notamment à Madame Pécresse, ça n'avait pas été pour le moins très porteur. Mais là, on voit qu'il y a un petit changement dans l'opinion. Le problème, c'est que si tout le monde est d'accord sur le diagnostic, dans ce type de situation, c'est toujours comme cela, on n'est pas d'accord sur les moyens, et c'est bien là que le bât blesse.
Ah oui, c'est tout l'enjeu. L'objectif du gouvernement, c'est donc désormais de trouver 40 milliards d'euros d'économies pour amener le déficit public à 4,6% dès 2026, sans nouvelle hausse d'impôts, promet la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a déjà identifié un moyen de faire des économies. Elle était l'invitée de TF1.
On a aujourd'hui, sur les niches fiscales, 467 niches fiscales. On en a des dizaines, qui bénéficient à moins de 100 contribuables. Et donc moi, c'est quoi ce qu'on veut faire? C'est de dire, on préfère avoir des impôts qui soient potentiellement plus bas pour tout le monde, plutôt que d'avoir des impôts élevés, avec certains qui, eux, ont des très très fortes réductions d'impôts. Donc on préfère des impôts pour tout le monde qui soient plus bas, plutôt qu'un système où on a des impôts élevés avec certains qui ont des niches.
Arnaud Benedetti, des niches fiscales, il y en a, on l'entendait, plus de 450 en France. Elles coûteraient autour de 80 milliards d'euros. C'est donc beaucoup et c'est un peu fourre-tout. Est-ce que pointer du doigt ces niches, ce n'est pas un peu jouer la montre en trouvant un poste de dépense dont la suppression sur le papier peut peut-être faire consensus?
Oui, vraisemblablement, mais tout dépend des niches fiscales auxquelles En l'occurrence, le gouvernement veut s'attaquer. Manifestement, si l'on entend Madame Montchalin, c'est qu'elle pointe du doigt et on voit bien quel est, j'allais dire, l'enrobage politique derrière les propos de la ministre. Elle pointe du doigt finalement des contribuables qui sont des contribuables très, 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 très aisés et qui bénéficieraient de ces niches fiscales. Donc il s'agit d'une certaine manière, vraisemblablement, d'expliquer qu'il y aura vraisemblablement, peut-être, potentiellement, un effort qui sera demandé aux plus aisés, aux plus riches, façon peut-être de faire passer aussi un certain nombre d'efforts qui pourraient être écrêtés et qui pourraient, eux, concerner les classes moyennes ou les classes populaires. Mais si vous voulez, le vrai sujet, c'est de rendre acceptable politiquement et socialement cette nécessaire réduction des déficits publics, d'ailleurs, dont a parlé très justement le premier président de la Cour des comptes. Il y a là, en effet, un sujet qui est un sujet essentiel et qui est un sujet d'autant plus difficile. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a un gouvernement qui ne dispose pas, si vous voulez, d'une assise majoritaire à l'Assemblée nationale qui peut lui permettre à la fois de tenir ce discours de sang, de sueur et de larmes et surtout de mettre en place les dispositifs qui permettront progressivement de faire reculer la dépense publique.
Alors, vous parliez d'acceptabilité. Cette quête d'économie tous azimuts dans laquelle s'est lancé le gouvernement, elle pourrait aboutir à la levée de certains tabous, hein, comme la suppression, par exemple, d'un abattement de 10% dont bénéficient les retraités. Une mesure que n'exclut pas Amélie de Montchalin et qui provoque la colère de Thomas Ménager. Il est porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée. Il s'exprimait ce dimanche dans Questions politiques sur France Inter et France Info TV.
Très mauvaise idée. Moi, je suis profondément choqué parce que ça va, au final, à l'encontre de tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on nous a promis pas de hausse d'impôts. Au final, ça va être 500 000 personnes qui vont être imposées, 500 000 retraités. Ça va être 8,5 millions de retraités qui vont voir leur impôt augmenter de facto. Un retraité sur deux. Et ce ne sont pas que des retraités riches, loin s'en faut, parce qu'au final, ça touche quand même une majorité des retraités qui ont déjà connu, sous Emmanuel Macron, la hausse de la CSG dès les premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui ont connu l'inflation. Moi, j'ai dans ma permanence des retraités qui sont des retraités qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et donc, avant d'aller taper dans la caisse des retraités, dans la poche des retraités, faisons des économies structurelles, j'espère qu'on y viendra.
Arnaud Benedetti, touché aux retraités, des retraités qui votent, hein, il n'était que 40% à s'abstenir lors des dernières législatives. Est-ce que ce n'est pas extrêmement risqué pour un gouvernement politiquement ?
C'est très risqué, évidemment, politiquement. C'est très risqué sociologiquement, d'autant plus qu'une partie de l'électorat, on s'en souvient d'Emmanuel Macron et de ce qu'on appelle le bloc central, et plutôt un électorat de seniors. Mais au-delà de cette question électorale, c'est en effet la possibilité ou non de se voir censuré par les oppositions à l'Assemblée nationale. Vous avez là, en effet, les propos que vous avez cités.
Arnaud Benedetti, est-ce que vous êtes encore avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
On vous retrouve, poursuivez, ouais. On est avec vous.
Vous avez là en effet les propos du Rassemblement National qui semblent en tout cas s'opposer à cette mesure. On voit mal la gauche ne pas s'y opposer, là aussi. Et on a manifestement cet après-midi M. Wauquiez qui lui aussi, postulant à la présidence des LR, président du groupe parlementaire LR, qui vient lui aussi de s'opposer à cette mesure. Ça veut dire que ça poserait déjà un problème au sein même de la coalition gouvernementale, puisque les LR sont, je le rappelle, membres de cette coalition gouvernementale à part entière. Mais ça serait aussi le risque de s'engager vers un chemin qui rend possible une censure du gouvernement. C'est un vrai sujet. C'est un sujet en tout cas manifestement explosif sur le plan politique et sur le plan parlementaire, et c'est une vraie prise de risque si cette mesure était mise en œuvre par le gouvernement, en tout cas si le gouvernement marquait sa volonté de mettre en œuvre cette mesure.
Alors on l'entendait pour l'extrême droite, la solution passe par des économies structurelles. À gauche, comme l'année dernière, on penche plutôt pour une mise à contribution des plus aisés et des entreprises pour dégager des ressources. Le député PS Philippe Brun, il est vice-président de la commission des finances, il est interrogé par BFM.
Les 40 milliards qui sont demandés, c'est très difficile de les faire en un an. Et si on les fait en un an, qu'est-ce qu'on fait ? C'était le budget Barnier qui a été censuré. des remboursements de médicaments, franchise médicale, des indexations des retraites. Ça, les Français n'en veulent pas, et l'Assemblée nationale n'en veut pas, puisque cela a justifié la censure de Michel Barnier. Donc, nous pensons qu'il faut rééquilibrer l'effort. Il y a 62 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les plus riches qui ont été consentis depuis 2017. Et quand on parle des plus riches, on parle pas des classes moyennes. On parle des gens qui ont des patrimoines financiers importants et qui aujourd'hui payent moins de 2% d'impôts sur le revenu rapporté au rendement de leur patrimoine total. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut créer une contribution sur les très hauts patrimoines, pas l'ISF, quelque chose de nouveau, qui permette au moins de mettre en place un impôt minimal.
Alors le RN veut des économies, la gauche de nouveaux impôts sur les plus riches. C'est vent contraire, Arnaud Benedetti. On les connaît, hein, Philippe Brun l'a rappelé, ils avaient abouti à la censure du gouvernement Barnier. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans la même situation pour l'exécutif de François Bayrou ?
Oui, le risque est grand finalement que sur cette question de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, le gouvernement se retrouve de François Bayrou dans la situation dans laquelle s'est retrouvé le gouvernement de Michel Barnier, avec le risque en plus qu'au sein même, encore une fois, de la coalition, un certain nombre, j'allais dire, des partis membres de cette coalition n'adhèrent pas aux propositions qui pourraient être faites par le gouvernement. On le voit par exemple, entre autres, avec la position de M. Wauquiez sur la question des retraités. Donc, il y a en effet une zone de risque dans laquelle pourrait rentrer le gouvernement. Alors, l'autre réalité, c'est qu'il y a quand même une réalité qui est, tout à fait tangible, c'est que la supportabilité de la dette française devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire que le risque est grand que l'on recule les mesures indispensables pour retrouver une trajectoire de maîtrise et que, en reculant de plus en plus, j'allais dire, les mesures indispensables d'une manière ou d'une autre pour maîtriser cette dette, on se retrouve dans une situation beaucoup plus complexe dans quelques mois, voire dans un an, avec le risque évidemment d'une dégradation de notre note, une risque de l'attaque de la dette sur les marchés. C'est en tout cas des menaces qui ont été déjà pointées par plusieurs économistes.
Alors, pour négocier avec les oppositions, François Bayrou a peut-être trouvé une carotte, un levier plutôt. Le ministre des Relations avec le Parlement annonce aujourd'hui que le chef du gouvernement lancera la semaine prochaine une consultation avec les formations politiques pour évoquer l'introduction de la proportionnelle dans l'élection des députés. Arnaud Benedetti, c'est un serpent de mer de la présidence d'Emmanuel Macron. Il avait porté un tel projet en 2018. Il avait ensuite été relégué au fond des tiroirs. C'est surtout une demande de longue date de Marine Le Pen. Alors, est-ce que François Bayrou drague ici le Rassemblement national, ou est-ce que c'est une véritable conviction du Premier ministre, cette importance de la proportionnelle ?
Il a plutôt toujours milité pour la proportionnelle, bien avant qu'il ne soit Premier ministre, appartenant à une force politique qui, pendant longtemps, il jugeait insuffisamment représentée au Parlement. Et finalement, cette idée d'introduire une dose de proportionnelle est une idée qui pourrait faire consensus au sein de l'arc parlementaire du Rassemblement national à LFI. On est, disons, sur une position qui est plutôt favorable à l'introduction d'une dose de proportionnelle. C'est une vieille revendication du Rassemblement national, vous l'avez rappelé. Mais au moment, il faut s'en souvenir, où le Rassemblement national n'avait pas la capacité de pouvoir accéder au Parlement. Les choses ont quand même changé depuis 2022 et depuis 2024. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des zones de convergence qui peuvent exister à distance, notamment des zones de résistance, au sein même de la coalition, encore une fois, gouvernementale. On ne sait pas trop quelle est la position des LR sur cette question. On ne sait pas trop, quand même, fondamentalement, quelle est la position des macronistes sur cette question. Mais on voit que, en effet, vraisemblablement, peut-être que François Bayrou, dans une stratégie plus globale de stabilisation de sa coalition parlementaire, s'efforce d'envoyer des gages, peut-être en décidant de mettre en œuvre une réforme du mode de scrutin. Et encore faut-il savoir laquelle. Est-ce que c'est départemental ? Est-ce que c'est régional ? Est-ce que c'est mixte ? On ne sait pas trop encore aujourd'hui quelles sont les idées du chef du gouvernement sur cette question de la proportionnelle. Mais peut-être essaye-t-il d'envoyer des gages à des oppositions qui seraient en effet susceptibles de le censurer sur le budget afin de les neutraliser. Mais vous savez, c'est de la chirurgie fine. En général, l'exercice parlementaire en situation de grande instabilité, comme c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui peut être démenti demain par des circonstances nouvelles qui viendraient en effet disons, fragiliser cet équilibre à rechercher.
Les négociations qui débutent donc le 28 avril, fait savoir le gouvernement. On va parler de la gauche maintenant. L'actualité du week-end du côté du nouveau Front Populaire, c'était la réélection de Marine Tondelier à la tête des écologistes. Un véritable plébiscite puisque la conseillère régionale des Hauts-de-France a été réélue avec 73% des voix lors du congrès de sa formation. Un score qui lui a valu des questions sur une éventuelle candidature à la présidentielle au nom peut-être d'une union de la gauche. Et elle a préféré botter en touche. Écoutez-la, elle est interrogée au micro de France 3.
Vous savez, moi j'ai une mission, c'est la même que cet été, c'est qu'on soit meilleur que le Rassemblement National. La question du qui, elle vient après, il ne faut pas être obsédé comme ça. Il faut d'abord se poser deux questions essentielles. Le pourquoi faire, c'est-à-dire c'est quoi le projet. Il faut commencer par là, comme dans un entonnoir, là où on parle du projet, puis on arrivera aux questions plus difficiles d'incarnation ensuite, mais tout le monde sera déjà ensemble. Et puis surtout, la question du comment. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre qu'on se plaigne le Rassemblement National, ouin ouin, ils sont trop forts, c'est horrible. En fait, on a un truc très très simple à faire, c'est élémentaire. Il faut être meilleur. Et temporairement, cet été, nous l'avons été. Il n'y a pas de raison que ce soit une fatalité, qu'on ne puisse pas l'être à nouveau. Juste, il faut arrêter le nombrilisme, arrêter la déperdition énergétique et se concentrer sur l'essentiel.
Alors, on entend Marine Tondelier, les idées, pas les personnes. Un discours un peu éculé à gauche ces dernières années. Est-ce que Marine Tondelier, malgré tout, peut être ce trait d'union entre Parti Socialiste et France Insoumise et peut-être la figure d'une candidature commune d'une gauche hypothétiquement unie en 2027, Arnaud Benedetti?
Oui, vous l'avez dit, hypothétiquement unie, on en est très loin. Pour l'instant. D'abord parce que, si vous voulez, dans le rapport de force politique, qui est le rapport de force politique à gauche, les Verts ne sont pas dominants, loin de là. Les forces dominantes sont quand même, sur le plan de la sociologie électorale, plutôt du côté de LFI, voire du côté du Parti Socialiste, avec son réseau extrêmement important, qu'on le veuille ou non encore aujourd'hui, d'élus locaux, à la fois dans les grandes villes, dans les régions, dans les conseils départementaux, et que je dirais que le barycentre, en tout cas, d'un candidat potentiellement efficace sur le plan d'une candidature unitaire, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, serait plutôt à rechercher du côté du Parti Socialiste ou de LFI, en tout cas en termes de poids politique, de capital politique. Après, les Verts font entendre, en tout cas, une voix qui est toujours une voix un peu différente au sein du concert de la gauche. Ce qu'il faut noter, c'est que quand même cette réélection de Mme Tondelier, c'est une réélection qui se fait avec un étiage militant qui est quand même relatif, en l'occurrence, mais au moins est-elle réélue, ce qui n'a pas toujours été le cas chez les leaders des Verts. Mais on est très loin.
Arnaud Benedetti.
Et le plus important, ce sera les municipales dans un an.
Alors, on est de nouveau avec vous. La connexion coupe parfois un petit peu, mais nous sommes ensemble. Puisque nous évoquons la figure peut-être la mieux placée pour représenter à gauche, je voulais vous faire réagir sur ce chiffre. En une minute, 74% des 18-30 ans ne se sentent pas représentés par la classe politique. C'est ce qui ressort de la troisième édition du baromètre d'enquête d'opinion du Cercle des économistes, réalisé par June Marketing et rendu public par Le Parisien. Plus de 40% des jeunes s'étaient abstenus à la présidentielle de 2022. Cette méfiance de la jeunesse de nos politiques, elle ne se résorbe pas et elle a des effets concrets. Comment l'expliquer, selon vous, Arnaud Benedetti, ce désamour profond de la jeunesse aujourd'hui pour la classe politique ?
C'est un phénomène d'abord récurrent chez les 18-24 ans, c'est ceux qui votent le moins, et ça depuis très longtemps, donc ce n'est pas fondamentalement nouveau. Ensuite, c'est en effet un phénomène qui tend à simplifier, comme si aujourd'hui l'offre politique ne correspondait plus aux aspirations, aux attentes, aux préoccupations des jeunes, avec quand même, faut-il le remarquer, des forces politiques qui captent, pour certaines d'entre elles, un électorat plus jeune. Il y en a deux principalement, LFI d'un côté et puis le Rassemblement National de l'autre. On voit bien que c'est, en tout cas de ce côté-là aujourd'hui, que les jeunes qui vont voter se tournent, disons, le plus massivement. Après, en effet, reste encore une fois un rejet, ou en tout cas une défiance, mais qui n'est pas propre à la jeunesse, qui se retrouve à peu près dans tous les segments générationnels.
D'autant qu'il y a un paradoxe, ils sont 58%, ces jeunes, à se dire très intéressés par la chose publique, ces 18-30 ans, c'est donc pas un désintérêt vraiment pour la politique, c'est un manque de représentativité aujourd'hui à laquelle est confrontée la classe politique française.
Oui, c'est ça, c'est bien le problème. Les Français ne sont pas, en rupture avec la politique, ne sont pas en rupture avec la démocratie, ne sont pas en rupture avec le débat public, ils sont en rupture avec très souvent, en tout cas en défiance, avec les offres qui leur sont proposées. Et finalement, le phénomène d'abstention qui n'a cessé de progresser ces dernières années en est la démonstration.
Je suis désolé Arnaud Baetti, je suis obligé de vous couper. C'est déjà la fin de ce Dimanche Politique. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, auteur de « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir ». Restez avec nous sur RFI dans un instant, un nouveau journal Afrique.